Les talents que moi j'ai dit, allez, on peut
Donc
y aller.
on prend la page 212 et on est à l'histoire du veau d'or. On va essayer de développer aujourd'hui plusieurs mefarshim avec le fil rouge du rabbi par derrière pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire de veau d'or, comment ça a pu se passer. Donc on va voir l'avis de Rabbi Saadia Gaon, l'avis de Ibn Ezra, l'avis du Kuzari, l'avis de Nachmanide et surtout l'avis de Rashi va briller par son absence. Il va pas nous expliquer du tout pourquoi ça s'est passé. Et ce que le
Donc
rabbi
tu
va
as dit.
expliquer, c'est que justement, si Rashi n'en parle pas, c'est que la réponse il l'a déjà donnée. Mais on va développer tout ça ensemble. Donc on va lire d'abord le verset. Vayar Ha'am, c'est un verset très important. Chaque mot dans ce verset calculé. Chut, Arié.
Chaque mot.
Chaque mot. Vayar Ha'am, kibosheh Moshe la redet min ha'ar. Le peuple a vu que Moshe Rabbeinu tardait pour redescendre de la montagne. Rappelez-vous, Moshe Rabbeinu, après le six Sivan, est monté à la montagne pour aller chercher les louchot, parce qu'on avait reçu la Torah, mais pas encore les tables de la loi. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les tables de la loi, on les a reçues le six Sivan, à Shavuot, c'est une erreur. Le six Sivan, on a reçu les 10 commandements. On a entendu les 10 commandements. Moshe Rabbeinu est monté après 40 jours pour aller récupérer les tables de la loi et tout ce qui s'y associe, c'est-à-dire toute la Torah. D'accord? Il est monté pour aller les chercher. Il devait redescendre 40 jours plus tard. Le peuple, c'est arrivé 40 jours plus tard. Rashi explique le calcul parce qu'en vérité, le peuple a fait un certain calcul et ils se sont dit, d'après notre calcul, Moshe Rabbeinu devait être déjà rentré aujourd'hui. Moshe Rabbeinu n'était pas encore rentré. Donc on avait un problème. Donc le peuple a vu que Moshe Rabbeinu tardait pour descendre de la montagne. En fait, il allait revenir que le lendemain. D'après certains avis, c'était même dans l'après-midi. Vaïkael à Am al Aaron. Donc le peuple s'est rassemblé autour de Aaron. Écoutez bien chaque mot du verset. Vayomro est là, ils lui ont dit, Koum, lève-toi. Aselanu Elokim. Fais-nous un dieu. Donc un dieu, a priori, c'est au singulier ou au pluriel? Ben là, pour l'instant, on ne sait pas trop. C'est seulement par ce qu'on va comprendre. Asher Yelchou Lefanenu, qui marcheront devant nous. Là, ils sont passés au pluriel. Comme Rachid dira, ça veut dire quoi? Pourquoi ils passent au pluriel? C'est-à-dire que là, à ce moment-là, le peuple juif voulait plusieurs dieux. Kizé Moshe Aish, car Moshe, l'homme, Asher Elanu Me'eret Mitzrayim, car l'homme Moshe qui nous a fait monter d'Égypte, lo yadanu mehayalo, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Alors, quel rapport? Parce que Moshe Rabbeinu, on ne sait pas où il est, c'est pour ça qu'on veut un nouveau Dieu. Il n'y a pas de rapport.
Bah attends, c'est peut-être
Attendez.
pour remplacer Moshe,
Ah, très bien,
pas
ma
pour
question.
remplacer Dieu.
Ma question, mais là ils ont dit Aselanu Elokim.
Oui, mais c'est un
Ok,
personnage
Moshe il est
important.
parti, il n'est plus là. Alors on n'a qu'à demander à notre Moshe. Ils n'ont qu'à demander à Aaron, deviens-toi notre Moshe.
Comme guide peut-être.
Je sais pas. Pour l'instant, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qui s'est
Ça
passé?
ressemble à ça.
Enfin, donc là, pour l'instant, il demande, Aselanu Elokim, viens nous faire un dieu, Asher Yelchou Lefanenu, qui va marcher devant nous. Alors, la question que se posent tous les Mefarshim, enfin, en tout cas, une grande partie des Mefarshim, c'est une parachute pour laquelle il y a beaucoup de commentateurs, se disent, mais comment c'est possible qu'après que les Bnei Israël viennent de recevoir la Torah? C'est-à-dire, c'est tout frais, il y a même à peine tout juste 40 jours. Ils viennent de recevoir la Torah. Ils viennent de voir des miracles extraordinaires d'Akadosh Baruch Hu. Des miracles tellement grands. Comment c'est possible qu'ils ont pu demander, qu'ils ont pu vouloir faire un veau d'or? Ils ont pu vouloir avoir un autre Dieu, alors qu'ils viennent de recevoir la Torah.
C'est qui l'âme?
D'accord? Ah, c'est le peuple.
Ah oui, c'est qui le peuple?
Non, quand on dit le peuple, non. Ah non, pas du tout.
Quoi, c'est l'Ibn
Quand on
Israël,
dit
c'est
le peuple,
tout?
c'est le peuple.
C'est le peuple.
C'est le peuple. C'est-à-dire que c'est une demande qui vient du peuple. Il y a peut-être des exceptions, mais c'est une demande qui vient de la collectivité du peuple. Donc la question que se pose les Mefarshim, ils disent, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment Akadosh Baruch Hu, comment les Bnei Israël, après qu'ils ont vu des tellement grands miracles d'Akadosh Baruch Hu, comment ils peuvent vouloir faire un veau d'or? Qu'est-ce qui leur est passé par la
peut-être
tête?
fait peur, tous ces miracles, tout ça.
On va voir.
Ils sont embauchés, ils se sont dit, comment on va faire? Déjà, Moshe les a protégés au moment du don de la Torah. Quand il y a eu les colottes,
oui.
Peut-être que là, du moment qu'il n'est pas là, ils ont eu très peur.
D'accord. Bon, on va voir, on va développer. On va voir les Mefarshim, différents Mefarshim. Pas seulement ça. On voit que quelque part, ils sont venus chez Aaron. Ils ont dit à Aaron, fais-nous un dieu. Qu'est-ce qu'a dit Aaron? Qu'est-ce qu'on attend comme réaction de la part de Aaron? Aaron, il va leur répondre une réponse, il va dire, bon, il va essayer de les calmer, il va leur dire, amenez-moi de l'or, et il va essayer de gagner du temps. Qu'est-ce qu'on attend comme réponse d'Aaron? Mais pourquoi Aaron ne leur dit pas,
mais attendez,
ça,
il va redescendre, mon
ça va à
frère.
la tête, mais calmez-vous. Il me dit, bah, vous avez perdu la tête ou quoi? On a toujours le même Dieu, toujours Moshe, il va revenir.
Oui, mais il s'est passé quelque chose.
D'accord?
Qu'est-ce
qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a eu peur qu'il demande aussi à quelqu'un d'autre.
Il s'est fait
attends,
lâcher.
Attendez, n'oubliez pas, on a reçu la Torah, ça fait 40 jours. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête dans la tête de Aaron? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des Bnei Israël surtout? Qu'est-ce qu'ils ont pensé? C'est pas possible qu'ils voulaient faire Avodah Zara. Il y a un problème ici. Peut-être que... Alors, ce que vous allez me faire, je vais m'expliquer. Peut-être qu'après, ça s'est mal terminé. Ça, ça arrive, il y a des choses qui se terminent mal. Ça se termine mal. Mais le départ. Quel était le départ? Mais pourquoi il y a eu ce départ?
Les révolutions sont pas le départ.
Ah, oui, on l'a bien vu. Ouais. Alors.
Moi, je vais te dire, c'est que Moshe, il a pas bien dit la date.
Et alors?
Alors,
ça y est, on change de Dieu, ça y est, on s'est trompé de date.
Sans manger.
Dis-moi, attends. Dis-moi, ça y est, un problème, là. Alors, il est venu en retard, et alors, il a eu du retard. C'est comme une femme qui dit à son mari, dit, ah, t'es rentré en retard, ça y est, t'es plus mon mari.
Voilà, dehors. Écoute, les chaves des routes, ils voulaient se faire un...
Il rentre avec un bouquet de fleurs, avec un grand sourire. Ah, t'es venu en retard, je te connais plus. J'ai changé de mari, ça y est.
C'est trop facile, ça.
C'est pas trop facile, c'est tordu, il y a un problème. D'accord. Alors, on a plusieurs réponses. Avant de développer la réponse de Rashi, je vais d'abord vous donner plusieurs réponses qu'on retrouve dans les Mefarchim. On a une première réponse qui est la réponse de Rabbi Saadia Gaon. Rabbi Saadia Gaon, il a une réponse très intéressante. Il dit qu'en vérité, Aaron ne voulait pas que ce odeur arrive. En vérité, c'est qui le vrai fautif ici? C'est Aaron. Pourquoi? Parce que Aaron a voulu tester les Bnei Israël. Est-ce qu'ils allaient faire Avodah Zara ou pas? Il a voulu les tester. Mais seulement, quand on teste, eh ben, c'est risqué. D'accord? Donc, il fallait s'attendre à un oui ou à un non. Et c'est pour ça que, il y a des textes, nous dit Rabbi Saadia Gaon, des textes plus loin, un peu plus loin dans la paracha, dans lesquels on voit que pour Moshe Rabbeinu et pour Akadosh Baruch Hu, le fautif principal de l'histoire, c'est qui? C'est Aaron.
Pas sympa.
D'accord? Attendez. Ça, c'est Rabbi Saadia Gaon, il dit comme ça.
Il est dur.
Rabbi Saadia Gaon, il dit que, qu'en vérité, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu s'est énervé, mais qu'il n'a pas tué tout le monde tout de suite. Parce que qui c'est qu'il a tué Akadosh Baruch Hu finalement?
Les enfants.
Il a tué 3000 personnes, mais qui il a tué? Alors, nous dit Rabbi Saadia Gaon, il a tué seulement ceux qui avaient fait Avodah Zara. Mais les autres, la majorité du peuple était encore, c'est pas trop quoi faire. Ça, eux, on les a pas tués. Il y a eu que 3000 morts, c'est tout ce qu'il y a eu.
Ceux qui ont mangé,
d'accord? Oui, mais ils étaient pas encore dans le coup. Dieu a tué seulement ceux qui ont vraiment fait Avodah Zara. Bon, c'est une réponse. Ça veut dire qu'à la base, d'où ça a démarré, on a voulu les tester. Mais bon, quand on teste, il faut s'attendre à tout. Donc ça s'est mal terminé, il y a eu une partie du peuple, il y a eu un pourcentage du peuple, c'était pas énorme. D'accord? Il y a eu un pourcentage du peuple qui est parti. Bon, ça c'est la réponse de Rabbi Saadia Gaon.
Non, 0,5.
D'accord? 0,5. 0,5 des hommes de 20 à 60 ans.
Bah oui, pas 2. Ils étaient 600 000.
Ouais. 0,5.
0,5.
2, ça veut dire.
Pas 2.
Mais non, ça.
3000.
Ah oui, pardon.
C'est pas énorme. D'accord? Ça c'est la réponse de Rabbi Saadia Gaon. D'ailleurs, c'est pour ça que nous fait remarquer, c'est pour ça que comment l'épidémie s'est arrêtée, qu'est-ce que Dieu a demandé à Moshe, donc, et que Moshe a demandé à Aaron, qu'est-ce qu'il lui a demandé? Il lui a dit, prépare les kétorettes. Qui c'est qui a fait les kétorettes? C'est Aaron. Et il lui a dit, attention, les kétorettes. Si.
Ça, c'est avec les femmes et
demi. Pas du tout. Non, il y a eu les kétorettes, là. Il lui a dit, attention. Il a dit, les kétorettes, ça a un pouvoir pour tuer, et ça peut en même temps tuer, si c'est mal fait, et en même temps, ça peut arrêter les malédictions. C'est ce qu'il a fait. D'accord? Bon. C'est là, bien sûr, c'est là. C'est un paracha. Ça, c'est première réponse, la réponse de Rabbi Saadia Gaon. Deuxième réponse, la réponse du Ibn Ezra et du Kuzari. Alors ça, c'est une réponse qui est très intéressante et qu'on va développer par la suite. Il dit qu'en vérité, les Bnei Israël n'ont jamais voulu servir d'autre Dieu. Jamais. Seulement, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit que, puisque Moshe Rabbeinu n'est pas là, alors, il faut bien qu'on serve à Kadosh Baruch Hu, on a besoin d'un remplaçant. C'est-à-dire qu'avant, quand on voulait servir à Kadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de qui on servait à Kadosh Baruch Hu, qui était notre Rabbi, entre guillemets, c'était Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, quand on voulait savoir comment on sert Dieu, ça passait par lui. Donc, eux, ils étaient tout frais encore. Ils venaient de recevoir la Torah, ils ne savaient pas trop quoi faire. Ils ont dit, bon, si on n'a plus de Moshe, il nous faut un intermédiaire. Qu'est-ce qu'ils ont choisi comme intermédiaire? Ils ont choisi comme intermédiaire le veau d'or. Pourquoi un veau?
Mais est-ce qu'ils savaient que ça allait être un veau d'abord?
Un veau. Ben, pourquoi un veau? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le veau?
Un veau, c'est ensuite ce qui est sorti.
D'accord. Oui, mais pourquoi un veau?
De
Micha. D'accord. Mais pourquoi un veau? Alors, écoutez bien ce que nous fait remarquer le Ibn Ezra. Le Ibn Ezra, de ce que je vais expliquer. Le Ibn Ezra nous fait remarquer, il nous dit que Aaron, lorsqu'il a rassemblé tout le peuple, et qu'il leur a dit, donc, ça y est, on prépare, et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, c'est la fête pour Dieu demain. L'Ibn Ezra dit, mais attends, pourquoi c'est la fête pour Dieu? Arrête pas Avodah Zara ici. Donc de là, on comprend quoi nous dit le Ibn Ezra, qu'en vérité, dans la tête des gens, c'était pas Avodah Zara. Les enfants, allez jouer au fond, là-bas, dans l'autre salle. Alors, de là, on comprend, nous dit le Ibn Ezra, le Kuzari, que dans la tête de Aaron, dans la tête des Bnei Israël, c'était évident qu'on n'était pas en train de chercher un autre Dieu, mais on était en train de vouloir fêter pour Hachem. Vous voyez comment on a transformé le négatif en positif? Ça, c'est le Ibn Ezra. Le Ramban Nachmanide, il va plus loin que ça. Il dit, c'est quoi le veau, d'accord? Il dit, le veau vient de la même famille que le chor, que le taureau. Et on sait très bien que, quel est le papier que Mincha a utilisé? Qu'est-ce qu'il y avait écrit dans ce papier?
Lève-toi taureau.
Lève-toi taureau. D'accord? Quel rapport, c'est quoi le taureau? Le taureau, ça symbolise le din, la rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Et que les Bnei Israël, ils voulaient qu'Akadosh Baruch Hu soit présent. Il dit, Akadosh Baruch Hu n'est pas présent, on le voit pas. Comme ça, il dit Rabbi, comme ça, il dit le Ramban. D'accord? Je vous donne encore 2-3 autres mefarshim, après on va développer le pirouche du Rabbi, il va expliquer ce que Rashi en pense. Dat Kenim, donc c'est les tosafistes, ils pensent que, en vérité, donc lui, il va faire un petit peu un mélange de tous ces trois, de tous les avis que je viens de dire. Il va dire qu'en vérité, chez les Bnei Israël, il y avait 3 groupes à ce moment-là. 3 groupes. Il y avait un premier groupe qui voulait simplement un nouveau dirigeant. Donc c'est l'avis du Ibn Ezra. Il voulait un nouveau dirigeant, c'est-à-dire, bon, Moshe Rabbeinu n'est plus là, il nous faut un autre représentant. On avait un deuxième groupe, c'est ceux qui voulaient vraiment faire Avodah Zara. Ceux-là, c'est ceux qui sont morts. 3000 morts. D'accord? Et on a un troisième groupe, c'est la tribu de Lévi, qui eux, ni ils ont cherché un nouveau dirigeant, et ni ils ont fait Avodah Zara. Ils sont restés attachés.
C'est eux-mêmes qui ont zigouillé, d'ailleurs.
D'accord? Il faut un autre terme, si vous voulez.
Bon, d'accord.
D'accord? Voilà. Ça, c'est la réponse d'Al Tkeni. On a une autre réponse, et je finis avec ça, après on va développer la réponse de Rachid. Une réponse très originale, la réponse de Tiferet et Yonatan. Donc une réponse assez récente, qui date à peu près d'il y a 400-500 ans. Il dit comme ça. Il dit, Dieu avait dit à Moshe Rabbeinu que lorsque le Mishkan sera construit, on le savait déjà, il parlera à Moshe Rabbeinu au travers des deux kérouvines, des deux chérubins. Donc on a une représentation animale. D'accord? Donc les Bnei Israël, ils savaient que Moshe Rabbeinu, il monte en haut pour chercher les louchot, mais également pour chercher les plans de ce fameux Mishkan, pour chercher les détails. Ils voient que Moshe Rabbeinu ne descend pas. Et ils voient que ça leur avait plu, les Bnei Israël, la représentation graphique, les chérubins, ils avaient accroché, tu vois. Donc ils se sont dit, attends, parce que n'oubliez pas que selon certains avis, les Kruvim, c'était une phase d'animal, de lion, d'après certains avis. Rashi pense que les Kruvim, c'était une phase de bébé. Mais il y en a qui pensent que c'est une phase de lion. D'accord? Bon. Donc qu'est-ce qu'il se dit? Il dit représentation graphique, tant qu'à faire. Moshe Rabbeinu n'est pas là, alors on va se débrouiller tout seul. D'accord? Donc voilà pourquoi ils ont demandé Elohim asher yelchu lefanenu, nous dit Tiferet Yonatan. Voilà pourquoi ils ont demandé au pluriel. On veut des dieux qui vont marcher devant nous. Pourquoi au pluriel? Il dit c'est très simple, parce qu'ils savaient qu'il y avait au minimum deux chérubins. Donc ils ont dit il nous faut deux. D'accord? Bon.
Excusez-moi, comment ils savaient ça?
Qui? Parce que bonne question, on va en parler. D'accord. On leur avait déjà parlé du Mishkan. Le Mishkan depuis le. On savait déjà en gros les détails. On savait déjà qu'il allait être construit en bois, qu'il allait avoir un hôtel. On savait les grandes lignes, on savait déjà. On savait déjà depuis l'Égypte. Yaakov Avinu avait transmis des choses. Bon. Donc en gros, voilà, si je peux résumer en un mot les méfarsim qu'on a expliqués ici, c'est qu'on veut expliquer que soit c'était Aaron qui voulait tester les Bnei Israël, numéro 1. Soit numéro 2, c'est tout simplement les Bnei Israël qui cherchaient un nouveau dirigeant, un nouveau représentant. D'accord. Maintenant, le grand problème, c'est que Rashi n'en parle pas. Rashi ne dit rien. Silence radio. Rien. C'est-à-dire que Rashi va nous répondre à des questions techniques, du style, comment les Bnei Israël sont trompés, qu'ils ont cru que les 40 jours étaient terminés, alors que les 40 jours n'étaient pas terminés, mais c'est des réponses techniques, ça. Moi, la question qui se pose, et qu'un simple enfant aurait posé, c'est qu'est-ce qui est passé, Ribbono Shel Olam, qu'est-ce qui est passé par la tête des Bnei Israël? Rashi, silence radio, il n'en parle pas. Donc, rappelez-vous un principe que le rabbi explique souvent et qu'on explique souvent dans le cours de jeudi matin, c'est que pour nous, si Rashi n'en parle pas, ça veut dire qu'il a déjà donné la réponse. C'est évident. C'est pas possible.
Ouais, événement pareil.
D'accord? Ça, c'est du pchat, ça. Je veux dire, ça, c'est pas quelque chose qui dérange un vieillard de 80 ans qui a déjà fait toute la Torah 15 fois. Si c'est quelque chose, la première fois qu'on voit la Torah, on dit, mais attends, on vient de lire, on a reçu la Torah, on nous a parlé du Mishkan, qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Ça va, il arrive en retard, doucement, Molo, calme-toi, ça va, oh. Zarachi, il dit rien du tout. Donc s'il dit rien du tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'a priori, Rashi pense que soit la réponse est évidente, soit on a déjà répondu à la question. Alors on va essayer de voir comment le rabbi explique comment on va retrouver cette réponse dans la vie de Rashi.
Rashi donne deux fois la raison, c'est le Erev Rav qui a écrit plus.
Ça, le Erev Rav, ça Rashi va expliquer après. Oui, une seconde. Il va dire que le Erev Rav, c'est ceux qui vont amplifier l'affaire. Encore une fois, ce que j'ai dit à Guy tout à l'heure. Je dis que la fin de l'histoire, on n'a aucune idée comment ça se termine. C'est comme la révolution en Égypte. On n'a aucune idée comment ça va se terminer. Mais on sait comment elle a commencé. À Mavdil, on sait pourquoi elle a commencé. C'est ça le plus important pour nous. La question pour nous, c'est comment ça a commencé. Comment ça a terminé, on n'a strictement aucune idée. Mais comment ça a commencé? Ça, pour l'instant, on ne comprend pas. Quand le Erev Rav, ils arrivent, ils disent, vas-y, ça y est, on voit un nouveau Dieu. Je dis, attends, doucement.
Ils chauffent.
Chauffent, bah, doucement. D'accord.
Ah, ils sont là, ils agissent.
Alors, le Rabbi explique la chose suivante, écoutez bien. Il dit que quand on lit les versets, et qu'on lit les versets simplement en traduisant, comme ce que vous avez dit tout à l'heure, on voit clairement que les Bnei Israël ne cherchaient pas ici de nouveaux dieux. C'est évident. La preuve, c'est quoi? C'est que, on a vu clairement dans le verset, que c'est écrit, le peuple a vu que Moshe Rabbeinu
tardait,
et donc ils ont dit, on veut un nouveau dieu. Donc de là, on voit clairement que, c'est pas un nouveau dieu qu'ils recherchent, parce que quel rapport entre le nouveau dieu et le fait que Moshe tarde?
Qui marche devant nous,
d'accord?
Il y a pas de...
D'ailleurs, en plus, il dit, Asher Yelchou Lefanenu qui va marcher devant nous.
Oui. Donc c'est pour remplacer.
D'accord, donc ça veut dire, c'est pour remplacer. La preuve, c'est qu'il l'attendait, ce Moshe Rabbeinu, il l'attendait, mais quand ils ont vu qu'il tardait, ils ont dit, on veut un dieu qui va marcher devant nous. Donc ça, le Rabbi dit, c'est évident, a priori, que pour Rashi, et selon le Pshat, on peut pas expliquer comme Rabbi Saadi Gaon. Rabbi Saadi Gaon a expliqué que l'histoire du Vaudor, c'était uniquement pour, c'était Aaron qui voulait tester les Bnei Israël. Ça, c'est un très beau pirouche quand on va chercher le Midrash. Mais selon le Pshat, c'est évident que toute cette histoire de Vaudor, c'est, à la base, les Bnei Israël ne voulaient pas faire Avodazara, ils cherchaient uniquement un représentant, il cherchait uniquement un représentant, Elohim Asher Yelchou Lefanenu, qui va marcher devant nous. D'ailleurs, on va relire ensemble le verset. Regardez. Vous allez voir comment on retrace dans le chat. On va relire le verset numéro 1. Vayomru Elav, au milieu. Ils lui ont dit, Koum Aselanu Elohim, lève-toi, fais-nous un dieu, fabrique-nous un dieu. C'est-à-dire, c'est un dieu de fabrication. Asher Yelchou Lefanenu, qui va marcher devant nous. Pourquoi? Si Zé Moshe Aish, car cet homme Moshe, Asher et Elanou me Eret Mitzrayim, qui nous a fait monter de la terre d'Égypte, Lo Yadanou me Hayalo, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce qu'il dit le rabbi? C'est très simple, il dit, c'est pourquoi on ne sait pas ce qui lui est arrivé? Pourquoi ils disent pas c'est un charlatan? Moshe, c'est un charlatan? Ils disent pas ça, qu'est-ce qu'ils ont dit ici?
Il est peut-être mort.
Ils ont dit, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. En d'autres termes, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, on a besoin d'un autre Moshe. Parce que si la conclusion des Bnei Israël à ce moment-là était, on s'est fait arnaquer, on veut un nouveau dieu, comment ils auraient dû dire? Ils auraient dû être beaucoup plus agressifs. Ils auraient dû dire, Moshe Rabbeinu nous a arnaqué, et je vais vous dire plus que ça. C'est pas Aaron qu'ils auraient dû venir voir. Parce que Aaron, il est de connivence avec Moshe. C'est son frère. D'accord? Donc si tu penses que tu t'es fait arnaquer, c'est pas Aaron qu'il faut venir voir. Il faut faire une révolution. Il faut aller chercher l'armée. D'accord?
Mais ils sont pas contre
Moshe.
Mais le Midrash,
il raconte de toute façon qu'ils ont
été cités par... Ils sont pas contre Moshe. Donc voilà. Donc de là, explique le rabbi. Dans le pshat, c'est évident que les Bnei Israël ne sont pas révoltés contre Akadosh Baruch Hu, et je vais vous dire plus que ça, ils sont même pas révoltés contre Moshe. C'est pas un sentiment de révolte. C'est simplement, ils sont perdus.
C'est à cause d'Akadosh Baruch Hu.
Peut-être.
Il y a rien de Sarara, il leur a fait un écran, il leur a montré Moshe Rabbeinu mort. Connais ça, le Midrash.
D'accord, peut-être. Tu as raison.
Il a donné la mission à Moshe Rabbeinu de monter.
D'accord. Là, je suis pas en train d'expliquer pourquoi ça s'est passé.
Non, mais on est dans le doute. C'est le doute qui a apporté.
Ça, je suis pas dedans. Encore une fois. Là, la question que je vous ai posée au début du cours, et c'est uniquement cette question qu'on se focalise aujourd'hui, c'est comment ça a démarré. C'est ça. Après toutes les autres questions, d'accord.
Moshe Rabbeinu, quand il dit plus tard à Dieu, il me dit, c'est toi qui leur as donné de l'or.
Oui, d'accord. Bah, après, ça c'est Moshe Rabbeinu qui va essayer de récupérer la situation. Ça c'est une autre question. Comment Moshe Rabbeinu récupère? Comment Aaron a réagi? Comment il aurait dû réagir? Ça c'est les commissions d'enquête, comment ils appellent ça? Qui font des enquêtes après. Voilà, commission spéciale pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Bah, c'est pas ça ma question ici. Ma question c'est comment ça a démarré? Donc on a eu Rabbi Saadi Gaon qui a dit qu'on a expliqué que c'était Aaron qui voulait tester les Bnei Israël. Bon, c'est un peu chaud quand même, tester les Bnei Israël, parce que quand tu testes, ça veut dire que, on peut avoir, ça veut dire que ça peut mal se terminer. On a la réponse du Ramban, et Rabbi explique qu'en vérité, Rachid n'a même pas besoin de l'expliquer, parce que c'est évident, c'est ce que le verset nous dit directement. Le verset nous dit directement, du verset on comprend qu'il n'y a pas de connotation négative, il n'y a pas d'agressivité de la part des Bnei Israël. Je sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas du tout d'agressivité de la part des Bnei Israël. La preuve, ils viennent voir Aaron. Ils viennent voir quelqu'un qui est de connivence. Très bien. Donc une fois qu'on a compris ça, d'accord? On a compris ça, de là on comprend que dans le Pshat, selon le Pshat, les Bnei Israël à la base ont fait Avodah Zara. Ils ont fait une erreur peut-être. Ils ne savaient pas encore, ils étaient tout frais, ils venaient de recevoir la Torah, n'oubliez pas que c'était des esclaves et pas plus de 90 jours, d'accord? Donc c'est tout frais encore. D'accord, il y a 3 mois, ils étaient esclaves, hein, pas oublié. Donc ils ont encore une certaine culture qui leur reste de l'Égypte, donc ils ont pu faire une erreur.
C'est ça aussi que, comme ils étaient esclaves et pas longtemps, ils avaient besoin d'un guide pour les guider, mais ils n'avaient pas l'habitude de se
déplacer. Bien sûr, 100%. Ouais. D'accord? Mais surtout qu'ils viennent d'une autre culture. Donc, ça leur prend du temps. Ils ne connaissent pas encore la Torah. Ouais. Moshe Rabbeinu, vous savez, Amara, juste avant de recevoir la Torah, Moshe Rabbeinu Amara, il a pris au Bnei Israël, on dit des halakhot clés, comme par exemple, le Shabbat. Et comme beaucoup de halakhot qui vont être cités dans la parasha Mishpatim, ça veut dire ne pas voler, ne pas tuer, etc. Beaucoup de halakhot qui vont être expliqués longuement dans la parasha Mishpatim. D'accord ? Très bien. Mais, je veux dire, qu'est-ce que c'est un Kadosh Baruch Hu ? Les cours de pensée juive, ça, ils n'ont pas encore fait les cours de pensée juive, ils ne savent pas. Très bien. Donc le Rabbi explique, c'est évident que selon le Pshat, les Bnei Israël, selon le Pshat, les Bnei Israël ici, ne voulaient pas faire Avodah Zara. Ce qu'ils voulaient, c'est quoi ? Ce qu'ils voulaient, c'était un Elohim. Alors, c'est quoi un Elohim ? Je vous ai dit tout à l'heure que si Rashi n'explique pas, ça veut dire que Rashi pense qu'on l'a déjà dit avant. Alors, je veux dire, on l'a déjà dit avant. Moshe Rabbeinu, il y a deux références, au moins deux références. Un peu plus tôt, lorsque Moshe Rabbeinu a été envoyé par Akadosh Baruch Hu pour aller parler à Pharo, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit, Ré'e, Netatira Elohim les Pharo. Je vais te rendre un Elohim pour Pharo. Rashi là-bas, qu'est-ce qu'il dit ? C'est quoi Elohim ? Shofet Vérodé. Un juge et un représentant, ça veut dire quelqu'un qui va être là pour le guider. Donc Rashi a déjà répondu. On sait déjà que Elohim ne veut pas dire Dieu. Elohim veut dire également un représentant. C'est pas la seule référence. D'accord ? On a aussi une autre référence, Ve'atat Yelo l'Elohim. Lorsque Moshe Rabbeinu est perdu, il dit, mais comment moi je vais parler ? Je bégaye. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit, Aaron va parler, et toi tu lui seras l'Elohim, tu seras son Dieu. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, Rashi ? C'est quoi l'Elohim ? Ça veut dire quoi l'Elohim ? Rashi dit, ça veut dire tu seras les raves ou les sars, tu seras son maître et son prince. Donc Rashi a déjà dit à deux reprises, d'accord, que l'Elohim peut vouloir dire soit un juge, c'est-à-dire quelqu'un qui va frapper, soit au contraire un rave et un prince. Et Rashi ne le répétera pas. C'est fini, il a déjà dit pour toute la Torah. Donc voilà pourquoi, quand les Bnei Israël disent à Moshe Rabbeinu ici, à Aaron, Poum, Asselanu Elohim, lève-toi. Lève-toi, ça veut dire quoi lève-toi ? Ça veut dire prends tes responsabilités. Asselanu Elohim. Rashi sait déjà qu'on a déjà répondu à la question, que Elohim ça veut dire fais-nous un représentant. Donc c'est évident qu'il n'y a pas ici.
Mais
c'est évident ici qu'il n'y a pas d'Avodah
Zara. D'ailleurs, elle lui a même confirmé ce que tu dis. Alors. Puisque après ils disent, voilà Dieu qui vous a sorti d'Égypte. C'est pas possible.
Non.
C'est pas Hegel qui a sorti.
Exactement.
Des
exactement.
Donc ça veut dire que c'est la représentation.
Ça c'est le rêve raf.
Eh oui.
Cela vont mourir. D'accord. Donc ça c'est évident, comme je vous ai expliqué dans le Rambam tout à l'heure, que non c'est le Daskin et les Tosafis qui dit que il y a eu des gens qui ont suivi. Il y a eu des gens qui s'y ont pris et que du coup ils ont pris un goût qu'il fallait pas prendre et bon ils ont fauté. Ça d'accord. Bon, 3000 ils sont morts. D'accord. C'est possible que ces 3000 là étaient principalement du rêve raf. À mon avis c'est fort possible. C'est pas écrit mais c'est fort possible. Et qu'on s'est bien débarrassé d'une grande partie du RFA. Mais bon, on les a retrouvés après encore parce qu'ils nous ont cassé les pieds jusqu'à la fin.
Oui.
D'accord ? Peut-être. Alors, j'étais en train de dire. Et... Maintenant.
Pas de politique, hein ?
Alors, maintenant, je continue. Donc, ça veut dire, rappelez-vous, Rashi n'en parle pas, mais s'il n'en parle pas, donnez-moi encore 5 minutes. S'il n'en parle pas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'a priori, il pense que la réponse a déjà été donnée. Donc c'est évident pour Rashi que les Bnei Israélites, est-ce qu'ils ont voulu faire Avodah Zara, oui ou non ? Non. Pourquoi non ? Parce que Elohim, en hébreu, ne veut pas dire, donc, et je peux même dire Elohim, parce que ça ne veut pas dire forcément un Dieu, ça veut dire une puissance, on a besoin d'un représentant. Maintenant je continue. Pourquoi les Bnei Israël ont voulu une idole ? D'accord ? C'est très simple. Là, il va expliquer le Rabbi qu'au contraire, c'est Moshe Rabbeinu qui les a induits en erreur. Pourquoi ? Parce que les Bnei Israël à la base, quand ils sont sortis d'Égypte, eux ils se sont dit, nous on parle directement à Kadosh Baruch Hu, sans passer par représentant.
Moshe Rabbeinu,
il est venu leur dire, non, moi je suis représentant, ça passe par moi. Après on va passer par Yitro, c'est-à-dire il y a des Memoutza. C'est quoi un Memoutza en hébreu ? C'est un représentant, c'est un intermédiaire. Donc c'est Moshe Rabbeinu qui leur a dit. Plus que ça, après Moshe Rabbeinu il se met à leur parler, on va construire un Mishkan. Ah oui, et dans ce Mishkan, qu'est-ce qu'il y aura ? Des chérubins. C'est les induits en erreur tout ça. Ça fait que le jour X, d'accord, le jour où ils se posent des questions, ils ne savent pas quoi faire, ben ils disent, attends, on va essayer d'improviser. Quand ils improvisent, ils vont improviser. Mais est-ce qu'ils ont fait un Avodah Zara, encore une fois ? Non. Ça veut dire que même si on va dire que les Bnei Israël voulaient un Vaudor, même si on va dire que c'est Aaron qui voulait un Vaudor, c'est pas forcément un Avodah Zara. C'est une erreur. Mais c'est pas un Avodah Zara. D'accord ? C'est pas un Avodah Zara. Alors maintenant, écoutez bien. Écoutez bien maintenant la question que le Rabbi va rentrer dans un petit pile-poule, donc c'est pour ça que j'ai besoin encore de 5 minutes. Pour expliquer, on va essayer de se focaliser maintenant 2 minutes sur Aaron. D'accord, donc il n'y a pas eu d'Avodah Zara, les Bnei Israël sont partis de bonne Kavana, mais ça s'est mal terminé pour 3000 personnes qui avaient une mauvaise Kavana. D'accord, on va dire, d'accord, pas de problème. Alors, le Rabbi pose une première question, il dit, mais attends, on a reçu au don de la Torah, un des 10 commandements de la Torah, c'est quoi ? C'est, on n'a pas le droit de faire d'imitation d'Akadosh Baruch Hu. est-ce que le fait de faire un veau d'or, c'est pas une imitation d'Akadosh Baruch Hu?
Non, ils l'ont pris comme...
D'accord.
Comme, ça dépend combien ils l'ont pris. Comme tu dis toi, ils l'ont pris comme...
Ah oui, mais on n'a pas le droit. C'est assourd. On n'a pas le droit.
Ils ont pas fait une
c'est le quatrième commandement.
Coup, ils ont fait, quelque chose qui peut les guider.
L'image. En fait, j'ai compris. Mais c'est une image. Akadosh Baruch Hu leur a interdit de le faire.
Pas d'image. Ni
d'accord.
De ce qui est là-haut,
pas d'image, ni de choses, donc ni de, comment on appelle ça, ni de sculpture, etc.
No beat match.
Alors, écoutez bien la réponse du rabbi. Rabbi dit, c'est très simple. Il dit, les bénis Israël, à ce moment-là, n'ont pas encore entendu les autres commandements. Rappelez-vous ce que le Midrash nous dit, la Gemara. La Gemara nous dit qu'ils ont entendu que les deux premiers commandements. Les autres, comme, tout de suite, Moshe Rabbeinu est resté dans la montagne. Il n'est pas venu leur dire, voilà, je vais vous dire ce que vous avez entendu. Non! Il leur dit, je vais pour chercher les tables de la loi pour vous donner les détails de ces commandements. Donc, les bénis Israël, c'est vrai que, alachiquement, c'est interdit ce qu'ils ont fait, mais ils ne le savaient pas encore.
Pourquoi? Si tu me dis, ils ont reçu les deux premiers.
Le premier, il y avait pas.
Dans le deuxième, il y avait.
Non, le deuxième, pas... tu n'auras pas d'autre dieu. Mais le détail, tu n'as pas le droit de faire de représentation, etc. Ça, il n'y avait pas encore. Donc c'est vrai que c'était déjà interdit, mais eux ne l'ont pas entendu, parce qu'on sait ce que le Midrash nous dit.
Ils l'ont entendu.
Non. Moshe Rabbeinu ne l'aura pas répété encore.
Ah.
Eh ben oui.
C'est pas.
Pas tout de suite.
C'est pas parole par parole.
Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Ils sont morts les bénis Israël. Ils étaient morts les bénis Israël. L'Anachama est parti. Après Moshe Rabbeinu leur a dit, je vais chercher l'étape de la loi. Qu'est-ce qui est écrit dans l'étape de la loi? L'Aseret Hadibrot. Les 10 commandements. Donc ils n'ont pas encore entendu. Très bien. Continue encore, va plus loin que ça. Dis, on sait qu'il y a un principe dans la Gemara qui dit que, qu'en vérité, écoutez bien ce que Rabbi va expliquer, que Aaron n'a même pas fait de issour en faisant le veau d'or. Il n'a même pas fait aucune interdiction, écoutez bien. La Lacha, elle dit que si Dieu préserve, je prends un objet. Et je fais avec cet objet la Vodazara.
Une idole.
Une idole. Qu'est-ce que dit la halakha? Automatiquement, cet objet devient un objet assourd, un objet interdit, et on n'a pas le droit même d'en profiter. Ça même le donner à quelqu'un, même de le faire fondre et de récupérer l'or, j'ai pas le droit. Il est assourd, bana. Très bien. Mais écoutez bien ce qu'elle dit la halakha, c'est écrit dans la Gemara Avodah Zarah. Si maintenant quelqu'un, qu'est-ce qu'il a fait? Je prends l'objet qui appartient à M. Bismuth, je dis voilà votre objet, je fais Avodah Zarah avec. Je le prends, voilà, c'est mon idole. Mais l'objet ne m'appartient pas. Dans ce cas-là, on peut interdire toute la terre. Je rentre chez quelqu'un, je dis voilà, ta maison sera mon idole.
On va interdire le soleil.
On va interdire le monde. Comment on va faire? Alors, qu'est-ce que dit la Gemara là-bas? La Gemara dit très simple, En Adam Oser Davar Chez Noshelo. Un homme ne peut pas interdire quelque chose qui ne lui appartient pas. Très bien. Alors on continue. Lorsque Aaron a demandé au Bnei Israël de l'or pour le veau d'or, écoutez ce qu'explique le rabbi. Il dit que Aaron a fait très attention de ne pas acquérir l'or. De ne pas faire kinyan de l'or. Qu'est-ce qu'il leur a demandé? Il leur a dit, Ve'aviou Elai. Amenez-le devant moi. Mais lui, il a fait très attention à ne jamais le lever et à ne jamais l'acquérir. Et alors? Comme il n'a jamais acquéri, on a ici une permission à l'Achri. Qui dit que même si, comme il n'a jamais acquis, on a une permission à l'Achri qui dit que, étant donné qu'il n'a pas acquis, même si Aaron était la source de l'Avodah Zarah, il n'y a pas d'Avodah Zarah, c'est comme si qu'il attendait quelque chose qui ne lui appartient pas.
On parle de l'or.
Attends. Oui?
Ça change quoi que l'or?
Ça change que là, on parle de Aaron, la personne de Aaron. Que Aaron a interdit quelque chose qui ne lui appartenait pas, donc il ne s'est rien passé ici. C'est ça le chidouche. Qu'est-ce que dit la Gemara Avodah Zarah? La Gemara Avodah Zarah dit, imaginez-vous, je vois la maison de M. Bismuth, hein.
Un palais.
Penthouse, d'accord?
Amen.
Et je passe à côté, je dis, ah, c'est mon idole.
À Jérusalem.
Je passe à côté, je dis, Chas v'Shalom, je dis, c'est mon idole, c'est quoi le din? J'ai rien dit. Donc lorsque Aaron a dit, d'accord? Il a demandé à ce qu'on fasse des choses, etc., qu'il y ait un veau d'or qui est sorti. Il n'a rien fait ici. Alariquement, il n'a rien fait. Par contre, qui c'est qui a fait quelque chose? C'est ceux qui ont dit par la suite, ça c'est le Rebra,
voilà
le 3000.
Voilà,
Elokecha Israël, voici ton Dieu Israël qui t'a fait sortir d'Égypte. Là, ils sont partis plus loin. Parce que ceux-là, ils faisaient partie des gens qui avaient donné de l'or. Donc, ils ont parlé pour quelque chose qui leur appartenait.
Oui, mais d'accord. Moi je veux venir alors, aussi à leur secours,
oui,
à cela.
Aujourd'hui, que n'importe qui, s'il fait un Vodazara, qu'il fasse l'échelle à quelqu'un qui va faire un Vodazara,
oui.
Si ça lui appartient pas, là, il fasse l'échelle à quelqu'un qui va faire un Vodazara aujourd'hui,
oui.
Il va dire, mais ce pourquoi je me suis acheté un Vodazara, ça m'appartient pas, on dit qu'il a pas fait un Vodazara.
Alors, oui. Pas qu'il a pas fait un Vodazara. C'est que l'objet n'est pas devenu une idole. Attendez, je continue.
Mais je veux finir.
L'objet n'est pas interdit. Donc il n'est pas interdit, donc s'il n'est pas interdit. D'accord, donc ça veut dire que tu bluffes, c'est rien du tout. C'est-à-dire là, avec ça, je vais expliquer pourquoi même Aaron n'a pas fait Avodazara. Il a rien fait. Mais attendez, je peux finir, je continue. Le rabbi continue, pose la question. Donnez-moi encore 2 minutes, parce que bon, on n'a pas le temps de tout le faire, mais c'est un très très joli développement. Le rabbi dit, mais attends, il y a un problème. C'est que les bénis Israël ont donné leur accord à Aaron, pour que Aaron prépare le veau d'or. Donc le fait de donner l'accord, est-ce que ça veut pas dire que Aaron est devenu leur shliach? Et plus que ça. Et donc s'il est devenu leur shliach, donc du coup, il l'a fait à leur place. Donc Aaron vient de faire une idole à leur place. Plus que ça, on aurait bien amené une preuve à cette question. La Gemara, qui écrit un Chumash Devarim, c'est écrit que lorsque les Bnei Israël arrivaient en Eretz Israël, ils devaient brûler les bois de Asherah. C'était des bois qui étaient utilisés pour la Avodah Zara. Alors la Gemara pose la question. Elle dit, mais attends, je comprends pas. Là, t'es un Eretz Israël, elle appartient à qui? Elle appartient au patriarche. Les Goïms nous l'ont volé. Donc puisque les Goïms nous l'ont volé, même s'ils ont pris des arbres et que de ces arbres ils les ont rendus à Avodah Zara, ils ont fait à Avodah Zara quelque chose qui ne leur appartient pas. Et pourtant, on doit les brûler. Pourquoi on doit les brûler? Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara là-bas? D'accord? La Gemara répond, elle dit, c'est très simple. Ça, c'est quelque chose de très très fort. La Gemara a dit, lorsque les Bnei Israël ont fait le veau d'or, ils ont montré qu'ils étaient intéressés par la Avodah Zara. Donc puisqu'ils ont montré qu'ils étaient intéressés par la Avodah Zara, les Goïms en Eretz Israël qui ont fait la Avodah Zara avec le bois de Asherah sont devenus les Shluchim des Bnei Israël. Oui? Donc les Shluchim, ça veut dire qu'ils font notre place. Parce que en Eretz Israël, il y avait des bois qui nous appartenaient, mais qu'on n'était pas au courant, parce que bon, ça appartenait à notre patriarche. Étant donné qu'on a montré qu'on était intéressé par la Avodah Zara, la preuve, on l'a fait. Qu'est-ce que dit la Gemara là-bas? De là, les Goïms, quand ils ont fait après par la suite les bois de Asherah, ils ont fait une Avodah Zara. Alors maintenant, écoutez bien ce que... Donc de là, on voit quoi? Bon, je finis avec ça, hein, parce que... De là, on voit ça, que Aaron pouvait être le chaliar d'Ebné Israël. Et peut donc interdire. D'accord? Alors écoutez bien la réponse. D'accord? La réponse que le rabbi amène encore, etc., c'est vraiment, on voit comment il est en train d'être mélamé de trou sur l'Ebné Israël. Hein, il cherche à chaque fois les réponses. Un avocat. Il dit que là-bas, la Gemara a dit que comment les Bnei Israël ont montré qu'ils étaient d'accord, c'est lorsqu'ils ont avdou les Hegel. C'est lorsqu'ils ont servi qu'ils ont fait Avodah Zara. Mais Aaron, encore une fois, je parle de Aaron maintenant. Est-ce que Aaron, lui, a fait Avodah Zara? Est-ce qu'il a servi à l'Avodah Zara? Non, il n'a pas fait. Donc puisqu'il n'a pas fait, de là on comprend qu'il y a une permission à l'Arik. Donc je vais résumer ce qu'on a expliqué aujourd'hui. À la fin, on a eu beaucoup de détails. On a posé question numéro 1. Comment ça se fait que Rashi n'en parle pas? On a dit parce que Rashi a déjà expliqué que Elohim, ça veut dire quoi? Elohim, ça veut dire un représentant, un sar. Très bien. Donc avec ça, c'est évident que les Bnei Israélites, est-ce qu'ils voulaient faire Avodah Zara à la base? Est-ce que les Bnei Israël à la base voulaient faire Avodah Zara? C'est évident que non. Après, il y a 3000 pour qui ont mal compris. 0,5%. Bon, ça s'est mal passé pour 3000. D'accord. Donc c'est clair pour nous que c'est pas Avodah Zara et que dès le départ à la base ça n'a jamais démarré Avodah Zara. Pourquoi les Bnei Israël ont voulu un représentant animal? Parce que on leur a fait comprendre ça qu'il fallait un Memoutsa, il fallait un intermédiaire, notamment Moshe Rabbeinu, notamment les chérubins. Donc ils ont dit il n'est pas là, on sait pas quoi faire. Ils sont venus voir Aaron et dit toi Aaron au contraire t'es de la famille, trouve-nous une autre chose. Très bien. Maintenant Aaron, est-ce que Aaron a fait lui Avodah Zara en créant une idole? Alors on a donné deux réponses. On a dit premièrement, Aaron n'a pas fait Avodah Zara parce que Aaron a préparé une idole avec un objet qui ne lui appartenait pas. Puisqu'elle ne lui appartenait pas, il a rien fait. C'est comme si j'interdis la maison de quelqu'un d'autre. Ah, tu vas me dire, a priori, les Bnei Israël l'ont rendu shliach. La réponse qu'on a expliquée, c'est qu'ils peuvent le rendre shliach seulement une fois qu'ils ont déjà servi, qu'ils ont fait la Avodah Zara. Mais là, étant donné que les Bnei Israël n'ont pas fait la Avodah Zara et que les Bnei Israël baignent dans un flou et qu'ils savent pas ce qui va se passer, ce que Aaron a fait, c'est nada. Donc finalement, qui sont les responsables ici? Les seuls responsables, c'est les 3000 qui ont fauté. Et c'est pour ça qu'ils sont punis. Les restes, ça veut dire Aaron, les Bnei Israël, les autres, ceux qui cherchaient un représentant, tout cela, complètement été effacés, il n'y a plus rien. La preuve, c'est que c'est quoi le tikkun du Hegel? Ça va être le Mishkan. Et dans le Mishkan, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura beaucoup de représentations. Les sacrifices, c'est quoi? Et les chérubins, c'est quoi? De là, on veut montrer aux Bnei Israël que finalement, ils n'avaient pas si mal compris que ça. Sauf qu'ils ont voulu aller un peu trop vite, alors on les a calmés, on leur a dit, voilà, c'est nous qui allons vous dire comment ça marche. Mais bon, finalement, la faute du veau d'or n'est pas si grave que ça. Elle a été grave pour ceux qui sont plantés.
Mais pour les autres, on dit qu'on paye toujours, on fait un peu de faute là, aujourd'hui. Alors,
oui, c'est ce qu'on leur reproche.
Encore aujourd'hui.
Ce qu'on leur reproche, tu as raison. Ce qu'on leur reproche, ça c'est expliqué dans le Tania. C'est expliqué que ce qu'on reproche, c'est la faute du veau d'or, c'est l'impatience que les Bnei Israël ont eue. L'impatience que les Bnei Israël ont eue, d'accord? Oui. Et pas seulement ça, je vais répondre à la question de Dov, la gravité de la faute du veau d'or, c'est deux choses. Attendez, numéro 1, la gravité de la faute du veau d'or, c'est que, tout d'abord, on a été impatient, et numéro 2, c'est que c'était la première avéra que les Bnei Israël ont fait depuis qu'ils ont fauté. Et qu'est-ce qu'on explique dans Tania? C'est expliquer que toujours le premier, c'est le plus grave. Alors, comme lorsqu'une personne fait teshuva, elle a fait teshuva sur une avéra. D'accord?
La première fois qu'il va refauter, même si la fois d'après elle sera light, en vérité c'est la plus grave. Parce qu'une fois qu'il a repris, après il va repartir. C'est comme pour les fumeurs, t'as une personne qui a arrêté de fumer. Il a repris une cigarette. Première transgression, c'est la plus grave, parce que c'est fini, il est reparti. C'est pour ça que la faute du vaudin pour nous, elle est aussi grave que la première faute d'Adam Harishon. Parce que c'est là qu'on a reparti.
D'accord, voilà. Marqué après le péché, leur paresse est permise.